En deux mots, Bernard, merci d'être encore une fois d'être là. Donc, Bernard Pécoul est médecin de formation, interniste, mais aussi médecin de santé publique. Et pour moi, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel dans la mesure où, très tôt, en fait, à la suite de son internat, hein, je crois, c'était assez rapidement après son internat, il a été pris, c'est le cas de le dire, par le virus de la médecine humanitaire. Il est parti avec Médecins sans frontières dès 1983 en Amérique centrale et en Asie pour superviser des campagnes finalement de santé publique. Il a été en 1986 le cofondateur d'Epicentre, qui est en fait, je dirais presque, le bras armé de Médecins sans frontières pour l'épidémiologie, qui a permis vraiment de structurer Médecins sans frontières pour ses activités épidémiologiques, avec une vraie originalité, disons, dans la thématique, puisque je pense qu'ils ont été vraiment les premiers à s'intéresser et à vraiment analyser les aspects épidémiologiques des, on pourrait résumer comme étant les désastres humanitaires. C'est vraiment une approche qui était totalement nouvelle à cette époque-là. Il a été directeur de MSF France, et puis très rapidement, de 98 à 2003, il a été le directeur exécutif de ce qui a été appelé, je reprends le terme anglais, Campaign for Access to Essential Medicines, c'est-à-dire une initiative qui, dans le cadre de MSF, visait à ce que les médicaments indispensables dans les régions en voie de développement puissent devenir plus faciles. Et ça a été finalement une espèce de transition tout à fait naturelle, je dirais, pour qu'à partir de 2003, et donc cette année, on va en fêter le 10e anniversaire, Bernard devienne le directeur exécutif de DNDI, qui est en fait Drugs for Neglected Disease Initiative, qui a été mis en place pour le traitement en particulier des infections parasitaires, la leishmaniose, la maladie de Chagas, la maladie du sommeil, mais qui élargit son spectre à l'heure actuelle à d'autres pathologies problématiques dans les régions d'endémie, en particulier les helminthias. On en a parlé beaucoup dans mes précédentes présentations, et l'infection VIH de l'enfant. Donc Bernard, je suis vraiment ravi que tu aies accepté de venir nous parler, et je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Philippe. Bon après-midi. Donc, je propose que dans les prochaines 45 minutes, on divise la présentation en 5 parties. D'abord, décrire un peu l'environnement de ce qu'est les maladies négligées. Ensuite, de décrire certaines de ces maladies. Ensuite, je voudrais décrire un peu le modèle de l'initiative dont Philippe vous a parlé. Ensuite, définir un peu le portefeuille de recherche que l'on a. Et enfin, je voudrais terminer sur quelques enjeux majeurs qui environne cette problématique de recherche pour les maladies négligées. Alors tout d'abord, je crois que pour définir la maladie négligée, je pense que la meilleure définition, elle est économique. Il s'agit d'une maladie qui se trouve en dehors du marché pharmaceutique, hein, qui représente un poids considérable. Hein, on estime aujourd'hui près de 1 000 milliards de dollars, le marché pharmaceutique. Il se trouve qu'une grande partie de la population reste en dehors de cette problématique et un certain nombre de maladies sont complètement en dehors de ce marché puisque les populations atteintes ne peuvent pas prendre en charge économiquement les vaccins. Donc ça se traduit au niveau épidémiologique par des maladies qui ne sont pas... contrairement à un sujet qui est largement développé en Europe, les maladies rares, là, on parle de maladies extrêmement fréquentes. On parle de maladies dont la charge de morbidité est bien sûr classée dans les 10 premières causes de mortalité. Et si on met ensemble, d'ailleurs, tuberculose, malaria et les maladies tropicales négligées, on a probablement la première cause actuelle de mortalité et morbidité. En termes de recherche et développement, ça se traduit par une situation assez catastrophique. On parlait même, il y a 10 ans, d'une panne de recherche et développement dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'à une période, et là, là, sur ce graphe, on décrit la période de 75 à 99, qui a été extrêmement fertile en développement de nouveaux médicaments pour l'ensemble des pathologies. Ce que l'on voit, c'est que seulement 1%, avec 1%, ces médicaments étaient affectés au groupe de maladies que je viens de décrire précédemment, qui représentait pourtant plus de 10% du poids de morbidité globale. C'est ce que plusieurs auteurs ont décrit comme le 10-90 gap, c'est-à-dire seulement 10% des investissements qui sont, orientés vers 90% de problèmes de santé publique. Alors, sans rentrer dans les détails de la carte, vous avez une longue liste de maladies, mais vous avez aussi la répartition géographique. Donc, il est évident que ça se passe dans le sud, ça se passe dans les 3 continents latino-américains, africains et asiatiques. Et encore, on verra que dans ces continents, il y a encore pas mal de disparités. Alors, on reviendra sur ces maladies, mais elles ont pour nom, elles ont déjà été citées. Alors, bien entendu, le plus connu, le paludisme, mais la leishmaniose, la maladie de sommeil, Chagas et les ailments seront décrits ultérieurement. Alors, les caractéristiques, je pense que même à l'intérieur de ces pays, je crois qu'il faut avoir en tête qu'on s'adresse aux pauvres parmi les pauvres. Donc, et quels que soient les pays, hein, que l'on soit au Congo ou que l'on soit bien sûr en Inde, alors c'est encore plus frappant en Inde aujourd'hui, lorsqu'on touche ces maladies, c'est vraiment la population la plus pauvre de l'Inde. Très souvent, ces populations et ces maladies se retrouvent dans les zones les plus reculées, donc qui rend extrêmement complexe la mise en œuvre des projets de santé publique. Ces maladies représentent un poids extrêmement important sur l'économie familiale, non seulement à cause de la mortalité, mais aussi à cause de la morbidité qu'elles représentent. Enfin, ces populations sont très souvent marginalisées et ont peu de chances d'avoir des porte-paroles au niveau des représentations politiques. Donc et je crois que c'est un élément caractéristique de chacune de ces maladies. Alors, en ce qui concerne les traitements que l'on a ou que l'on avait à offrir, parce que la situation commence à changer, on voit apparaître toute une série de problèmes. Alors ici, c'est illustré par l'exemple que l'on avait pour la maladie de sommeil lorsqu'on est rentré dans cette problématique, c'est qu'on avait le choix entre utiliser le mélarsoprol, qui est un dérivé de l'arsenic. Donc, c'était le traitement de choix pendant des décennies sur la maladie de sommeil, en sachant que lorsqu'on injectait ce mélarsoprol, on encourait le risque de tuer un patient sur 20 du fait de la toxicité du médicament. Alors, l'alternative est apparue à la fin des années 80, début des années 90. C'est un médicament qui a été développé en oncologie, donc pour le traitement du cancer, l'eflornithine, mais extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce que c'est une série de perfusions. Et d'autre part, alors que j'étais directeur de Médecins sans frontières, nous essayions d'acheter l'eflornithine, mais l'eflornithine n'était plus produite. Donc, il y avait aussi un problème de production. Donc ça, je crois que c'est l'illustration des problèmes. Mais en fait, il y a une série de problèmes que l'on retrouve systématiquement. Alors, le problème d'absence d'efficacité pour un certain nombre de ces traitements est souvent lié au développement des résistances. Bon, je l'ai illustré par l'arsenic, des médicaments extrêmement toxiques, très chers, difficiles à mettre en œuvre, souvent non enregistrés, donc non présents de manière officielle dans les pays les plus concernés. Et puis pour certains, des produits attirants, intéressants étaient développés, mais ils étaient protégés par un brevet et donc souvent non accessibles dans les pays les plus importants. Voilà. Alors, ce qui a commencé à changer pendant cette période, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience du problématique de ces maladies négligées, prise de conscience de l'absence de la recherche, Et on a vu apparaître un certain nombre d'acteurs qui ont commencé à investir dans ce domaine-là de manière pas forcément très coordonnée. Mais je pourrais en citer quelques-uns. On a un retour des industries pharmaceutiques vers cette problématique-là au cours des 10 dernières années. On a, quand j'ai mis philanthropie, j'aurais pu pratiquement mettre un nom dessus, puisque c'est la fondation Gates qui a vraiment changé cet environnement, parce que M. Gates en personne a mis sa fortune à disposition de cette problématique. Donc ça a redonné une certaine dynamique. Bien entendu, l'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle clé, et puis d'autres institutions et notre gouvernement sont apparus, et je voudrais décrirai ultérieurement ce qui s'est appelé PDP, Product Development Partnership, donc des initiatives publiques-privées pour répondre à cette problématique. Mais avant, je voudrais quand même passer un court moment sur les maladies qu'on essaie d'aborder, parce qu'elles ne sont pas forcément connues ici. Donc la maladie du sommeil, elle se concentre essentiellement dans l'Afrique subsaharienne, mais essentiellement, on va dire, dans l'Afrique centrale. Donc même si 36 pays sont concernés, c'est quand même autour de la République démocratique du Congo que ça se passe essentiellement. Donc c'est transmis par la mouche tsetse. C'est extrêmement difficile à diagnostiquer, puisqu'il faut faire des campagnes de dépistage avec une confirmation du diagnostic avec une ponction lombaire, donc tout ça dans des zones extrêmement reculées d'Afrique. Bon, il faut savoir que c'est une maladie qui est 100% létale sans traitement, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas hésité une seule minute à utiliser de l'arsénic, puisque lorsqu'on laissait évoluer la maladie spontanément, elle conduisait au décès après de longues souffrances, parce que les symptômes sont extrêmement douloureux. Donc, bon, les besoins sont relativement évidents. Pour la leishmaniose, alors là, on parle d'une maladie extrêmement étendue géographiquement. 350 millions de personnes à risque, avec un très gros foyer au niveau de l'Inde, Népal, Bangladesh, un foyer très actif en Afrique de l'Est, un foyer actif au Brésil, essentiellement. Alors, il y a deux grandes catégories dans cette maladie. Il y a la leishmaniose viscérale, qui là aussi est létale, extrêmement grave, et la leishmaniose cutanée, qui est là encore plus distribuée géographiquement. La zone géographique que j'ai décrite précédemment, c'était pour la leishmaniose viscérale. La leishmaniose cutanée est présente pratiquement sur tous les continents. Elle présente des symptômes moins sévères, mais entraîne une gêne sérieuse pour les populations. Donc, encore une fois, des besoins majeurs en traitement pour ces maladies. Alors, la maladie de Chagas, celle-là est particulièrement originale, puisqu'elle est de la même famille que la maladie du sommeil, c'est aussi la trypanosomiase. Elle touche essentiellement l'Amérique latine, en tout cas, son point de départ, c'est l'Amérique latine, où elle est une grande tueuse, mais elle a une évolution très particulière, puisqu'il y a une forme aiguë de cette maladie qui touche souvent l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est souvent exposé à la transmission, se faisant par le fameux kissing bug, qui est une punaise qui existe dans les habitats, qui entraîne une maladie initialement sous une forme aiguë, une fièvre complètement atypique, mais qui peut conduire à la mort. Mais quand on passe cette forme aiguë sans traitement, on expose la population à rentrer dans une phase chronique qui se manifeste parfois 15, 20, 30 années après l'infection sous forme souvent d'une maladie cardiaque sévère qui conduit à la mort, mais souvent qui n'est pas attribuée à la maladie de Chagas, puisque lorsque à 40, 50 ans, on meurt d'une maladie cardiaque, on n'a pas forcément la présence d'esprit de la vecteur Chagas. Et ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que Chagas, du fait de ce délai entre la phase d'infection et la phase de manifestation de la maladie, on se retrouve avec des malades Chagas à travers le monde entier qui ne sont pas diagnostiqués. Donc on en retrouve en Europe, on en retrouve beaucoup aux États-Unis, de fait la migration majeure vers les États-Unis, on trouve beaucoup en Espagne. Donc là, on a aujourd'hui un traitement pour la phase aiguë, on n'a rien pour la phase chronique, ce qui est particulièrement problématique. Je pense que vous avez dû avoir des informations sur le paludisme, donc j'irai peut-être vite sur le paludisme. Je voudrais juste insister que nous avons classé le sida pédiatrique dans les maladies négligées parce que théoriquement, aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de sida pédiatrique. Donc il y a d'ailleurs une volonté très forte de faire disparaître le sida pédiatrique. Malheureusement, les moyens de prévention restent difficiles à mettre en œuvre. Et les dernières estimations de l'OMS, c'est que 330 000 nouveaux enfants sont infectés chaque année. Or, ces enfants, ils sont essentiellement infectés dans les pays pauvres, dans les zones pauvres, grande majorité en Afrique. Donc, il n'y a pas de nouveaux traitements qui sont adaptés pour l'utilisation chez les jeunes enfants. Parce qu'aujourd'hui, la recommandation est de détecter le plus tôt possible la séropositivité et de traiter ces enfants avec une thérapie, une antithérapie virale. Voilà. Alors, face à cette situation décrite, nous avons vu apparaître une série de nouvelles initiatives. Donc là, elles sont listées ou presque toutes sur ce tableau. Je ne vais pas les décrire une à une, mais juste pour vous dire que dans ces domaines-là, à la fois pour la prise en charge thérapeutique ou pour la prise en charge préventive, ainsi que dans le domaine du diagnostic, il y a des initiatives mélangeant des partenaires publics-privés qui ont essayé de remplir ce vide laissé par l'absence de marché. Donc, DNDi, l'initiative pour laquelle je travaille aujourd'hui, fait partie de ces initiatives. Alors, grâce à ce mouvement, au cours de ces 10 dernières années, on a vu apparaître un portefeuille de recherche qui était quasiment vide lorsque nous faisions cette évaluation il y a un peu plus de 10 ans, et qui commence à se remplir, puisque la dernière estimation, c'est que plus de 140 candidats étaient dans le portefeuille. Alors, dans ce cadre-là, et ça me permet de faire un peu la transition sur ce qu'a dit Philippe sur mon passage de Médecins sans frontières à DNDi, en fait, en 1999, à Paris, nous avions rassemblé chez Médecins sans frontières un groupe d'experts mélangeant des industriels, des universitaires et des spécialistes santé publique pour décrire ce problème d'absence de recherche. Et par chance, le jour où ce meeting avait lieu, Médecins sans frontières a reçu le prix Nobel de la paix. Complètement par hasard. Hein. Et je me rappelle d'un professeur de Boston qui ouvrait ce meeting en disant « La seule manière de faire évoluer la situation serait d'avoir le soutien des médias et de la presse. » Et lorsque nous avons cherché à conclure ce meeting, il y avait à peu près 400 journalistes dans la salle chez Médecins sans frontières. Donc, on peut dire que cette initiative est partie sur un grand coup de chance, ce qui a entraîné Médecins sans frontières à affecter le prix et l'argent du prix au développement d'une nouvelle initiative pour stimuler la recherche. Donc, qui a vu le jour en 2003, donc sous la forme de DNDi, avec sept fondateurs, dont l'Institut Pasteur, dont Médecins sans frontières, et quatre instituts de recherche des pays endémiques, un en Inde, un au Kenya, un au Brésil, un en Malaisie. Et enfin, l'OMS est une entité fondatrice. Et juste pour décrire l'avancée de ce projet, en 2007, le premier médicament était enregistré. Bon, là, j'ai déjà décrit ce tableau, donc les fondateurs. Nous sommes partis avec un plan très ambitieux. Les gens qui nous ont rencontrés au début pensaient qu'on était des doux rêveurs, parce qu'on a rapidement mis des objectifs de développer, on disait, pour les premières années, 6 à 8 médicaments, et pour la période de 15 ans, 11 à 13 En fait, je vais préciser, nouveau traitement, puisque le point de départ, c'est d'amener aux patients une solution thérapeutique. Ce n'est pas d'amener des molécules pour amener des molécules. Donc, la problématique sur laquelle on se concentre, c'est d'amener des traitements aux malades. Et je pense que c'est extrêmement important à garder en considération quand on veut penser la stratégie de développement qu'il faut mettre en œuvre. Alors, on avait un objectif qui continue à être extrêmement important, c'est qu'on pense que la pérennité de ces programmes dépend de l'engagement des pays directement concernés. Donc, on a une activité de renforcement des capacités de recherche dans ces pays et d'engagement du secteur public, parce que du fait de la population que l'on tend à viser, donc la population la plus pauvre, il nous semble que la responsabilité appartient au secteur public, avec une participation, bien entendu, très active du secteur privé, mais la responsabilité, le leadership, doit être dans le secteur public. Alors aujourd'hui, c'est la situation aujourd'hui, il y a une estimation de 630 personnes qui travaillent sur ce projet, avec, vous voyez, une forte représentation de partenaires chercheurs en Afrique, mais répartis dans le monde entier. DNDI, c'est une initiative qui fait la recherche et le développement, mais sans laboratoire. Donc on est un groupe qui fait de la recherche et développement dans un cadre virtuel. Donc on est totalement dépendant de nos partenaires. Donc c'est grâce au fait qu'on a pu attirer des partenaires privés, publics, académiques, ONG, les programmes nationaux autour de la table pour faire la recherche et développement, qu'on est à même de mettre en œuvre ces programmes. Donc aujourd'hui, actuellement, plus de 100 partenaires œuvrent à notre portefeuille de recherche. Alors, au passage, je voudrais dire que quelques moments ont été extrêmement importants dans l'évolution de ce projet. Et là, j'en cite un qui est récent, puisque le 30 janvier 2012, donc il y a un an aujourd'hui, à Londres était rassemblée une large initiative autour de la Fondation Gates, de gouvernements anglais, américains, de l'industrie pharmaceutique, des pays endémiques. Et l'industrie pharmaceutique, il faut savoir que 11 présidents de différents groupes industriels étaient présents à cet événement pour dire qu'ils étaient prêts à mettre leurs ressources à disposition de ce projet. Et ça, effectivement, c'est purement un exercice de communication, mais qui est extrêmement symbolique et qui a des retombées sur le potentiel qui nous est offert aujourd'hui pour avancer. Donc le fait de mettre autour de la table autant de gens importants et de capacités autour de la table sur des problématiques qui étaient totalement oubliées, bien entendu, change complètement la dynamique. Alors, le portefeuille de recherche que l'on a, il est aujourd'hui dans un périmètre qui est défini en fonction de besoins prioritaires que l'on a établi avec l'OMS, avec des partenaires. Il faut dire que les critères que l'on choisit pour travailler dans telle ou telle maladie sont les besoins, l'absence d'autres initiatives et les opportunités scientifiques. Il nous faut les trois pour nous engager sur un terrain. Donc on a beaucoup travaillé depuis le début sur la leishmaniose, la maladie de sommeil et Chagas. Il se trouve que depuis un peu moins de 2 ans, on travaille sur les elementias. Donc, je l'ai dit avant, on commence à travailler depuis un an sur les sida pédiatriques. Et on a travaillé dans le passé sur la malaria, je reviendrai. Et les hypothèses de développement de nouveaux produits sont mises dans la colonne. Donc, c'est la base de notre business plan. Alors, comment a-t-on organisé la construction de notre portefeuille de recherche? Je veux dire, on a été extrêmement pragmatique. Et on a gardé en permanence au centre du problème les besoins des populations touchées. Donc on a fait un mélange de ce qu'on appelle une stratégie à court terme, au moyen terme, avec une stratégie à long terme. Donc à court terme, moyen terme, il s'agissait d'améliorer des produits existants ou d'aller trouver dans d'autres domaines thérapeutiques des médicaments qui pouvaient être utiles pour ces populations. Et alors, soit adapter la formulation, soit les mettre en combinaison, puisque une des manières d'aborder ces problématiques infectieuses, c'est de combiner les traitements pour renforcer l'efficacité, diminuer les risques de résistance, souvent raccourcir la durée de traitement. Donc, on a utilisé ça comme première stratégie. Mais en parallèle et dès le départ, on a souhaité avoir une stratégie long terme, donc participer à la sélection de nouvelles molécules issues des avancées qui étaient faites dans le domaine scientifique et dans le domaine notamment des nouvelles entités chimiques. Donc on a combiné ces deux stratégies dès le début. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille qui à la fois mélange des projets à un stade relativement précoce, de découverte ou à un stade préclinique chez l'animal, des projets à un stade clinique où on teste des traitements chez le patient, hein, et on a, je reviendrai là-dessus, des projets qui sont à un stade de mise en œuvre puisqu'on a développé de nouveaux produits qu'on rend disponibles aux populations aujourd'hui. Alors toutes les, je ne décrirai pas les boîtes une à une, mais toutes les boîtes qui sont marquées d'une marque en rouge sont des nouvelles entités chimiques. Hein. Donc on commence à avoir dans notre portefeuille des produits nouveaux, hein, qui est le fruit du mélange de la stratégie que j'ai décrite précédemment. Alors pour illustrer, j'ai peu d'exemples, j'en ai choisi quelques-uns qui sont assez illustratifs, et qui là concernent la maladie du sommeil. Hein. Pour la maladie du sommeil, vous gardez en tête, on est parti avec le médicament de référence quand on a commencé, c'était l'arsenic, hein, le Milnarsoprol. Alors, on a amélioré, vous verrez, mais on a pour ambition, dans cette maladie, qui pourrait être un candidat à l'élimination, on a pour ambition d'amener un traitement oral, simple, qui pourrait être délivré au niveau du village, à condition qu'en parallèle, on améliore le test diagnostique, c'est-à-dire que si on avait un test diagnostique rapide, on pourrait détecter, traiter. C'est ça l'objectif que l'on a, et on poursuit cet objectif dans la définition de notre stratégie. Donc là, on est allé chercher des candidats potentiels. Et on s'est rapproché d'une entreprise de biotechnologie basée en Californie, qui s'appelle Anacor, qui travaillait sur une famille, une classe qui s'appelle les oxaboroles, qui avait d'autres partenariats avec des entreprises comme Glaxo ou d'autres dans cette classe. Ils ont mis à disposition tous leurs produits pour D&DI qui a pu, avec d'autres partenaires académiques, tester ces produits dans le domaine de la maladie du sommeil. Donc on avait un point de départ sur lequel on a pu travailler, améliorer les caractéristiques chimiques du produit afin d'avoir un candidat médicament. Donc on est allé à travers toutes les phases précliniques. Aujourd'hui, ce produit est en phase 1 à Paris, en fait. Donc, il est aujourd'hui testé chez des personnes saines afin de découvrir la dose qui pourrait être utilisée, la dose qui pourrait être acceptée. Et on espère, dès l'année prochaine, pouvoir passer dans les tests cliniques chez le malade en Afrique. La caractéristique de ce produit, c'est un traitement oral et a priori en une dose. Donc, remplit des caractéristiques qui nous intéresseraient particulièrement pour adresser cette maladie. Bon, mais on n'a pas mis tous les, on va dire, on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Donc, on a un deuxième candidat pour la maladie du sommeil qui, là, est issu, s'appelle fexinidazole, donc issu de la classe des nitroimidazoles. Donc, là, une histoire totalement différente puisque c'est un médicament qui avait été développé dans les années 80, mais tout à fait pour illustrer ce que j'ai dit avant, c'est qu'il n'y avait pas de marché. C'est un médicament qui avait été développé jusque la phase préclinique et abandonné parce qu'il ne représentait pas d'intérêt. Donc on a pu le retrouver en fait, aujourd'hui, dans la base de données de Sanofi, parce qu'avant, c'était Hutch-Marie-Roussel, mais maintenant, il y a eu pas mal de fusions, donc c'est chez Sanofi. On a pu avoir accès à ce produit, on a pu compléter le travail préclinique, passer chez la phase 1, et aujourd'hui, ce médicament est testé contre la maladie du sommeil en République démocratique du Congo. J'ai visité les centres il y a quelques semaines. Et pour l'instant, ça se passe bien, mais on verra la suite. encore une fois, un médicament oral, bon, un traitement assez court, mais qui n'est pas une dose unique. Alors, le résultat de tous ces efforts, aujourd'hui, s'est concrétisé par 6 nouveaux traitements développés donc depuis le début 2003, mais dont le premier a été développé en 2007. Alors, 2 de ces médicaments sont pour le paludisme, 1 pour la maladie de Sommeil, c'est une combinaison, 2 pour la leishmaniose et 1 pour la maladie de Chagas. Alors, quelques mots sur chacun d'entre eux. Pour le premier médicament sur le paludisme, c'est une association d'artésunate avec l'amodiaquine. Alors, l'artésunate, c'est le traitement de base et de choix aujourd'hui recommandé par l'OMS contre le paludisme, mais à condition de le combiner avec un deuxième antipaludéen, toujours pareil pour éviter le développement de résistance. Donc ce produit, DNDi l'a développé, dans un partenariat d'ailleurs avec une entreprise de biotechnologie de Bordeaux, travaillant avec des instituts académiques. On l'a testé sur le terrain. Et ensuite, on a signé un partenariat avec Sanofi comme partenaire industriel pour compléter le développement et pour assurer la distribution. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en fait, sur la diapositive, j'ai 170 millions de traitements, mais aux dernières nouvelles, c'est plutôt que 190 millions de traitements qui ont été distribués en Afrique, ce qui est considérable en termes de volume, dans 30 pays différents. Des programmes ont été mis en place pour faire de la pharmacovigilance, donc sujet d'actualité dans la presse française. Mais on a mis un programme de pharmacovigilance en place. Et point que je voudrais aussi mentionner, parce qu'on a signé un accord avec Sanofi qui est un accord non exclusif. Donc Sanofi a accepté un accord de non-exclusivité. Donc on est dans la possibilité de transférer la technologie à un partenaire africain aujourd'hui en Tanzanie afin d'avoir une deuxième source de produits. Bon, je raconterai moins cette histoire. C'est une deuxième association thérapeutique pour le paludisme. Là, c'est l'artésunate avec la méfloquine. C'est un médicament qui est recommandé notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Donc là, le partenaire central a été un partenaire brésilien qui a mis en disposition pour l'Amérique latine. Et ensuite, on a fait un transfert vers l'Asie afin d'avoir un partenaire en Inde qui va distribuer ce produit en Inde. Alors, sur la maladie du sommeil, j'y reviens, on n'est plus en train d'utiliser de l'arsenic. La bonne nouvelle, c'est que grâce à notre stratégie à court terme, on a pu mettre en place une combinaison thérapeutique de nifurtimox, qui est un médicament qui était utilisé dans la maladie de Chagas, avec l'eflornithine dont j'ai parlé avant, donc un anticancéreux, mais à dose réduite, donc une dose qui puisse être utilisée dans des conditions plus difficiles. Et ce traitement, aujourd'hui, est utilisé largement dans les programmes, puisque, aux dernières estimations, en République démocratique du Congo, 93% des patients ont bénéficié de cette combinaison thérapeutique pendant la dernière année. Donc on est passé d'un stade de recherche où on testait les médicaments au stade où il a été approuvé, puis recommandé par l'OMS et aujourd'hui mis en œuvre dans les traitements. Il faut savoir que j'ai visité les centres de traitement de la maladie du sommeil aujourd'hui, alors que je les avais souvent visités en tant que MSF dans les années précédentes. L'atmosphère a complètement changé. Parce que quand les gens viennent pour se faire traiter, ils n'ont plus en tête qu'ils risquent de mourir. Puisque on parle de statistiques quand on parle 1 sur 20, mais quand on est à l'échelle des villages, tout le monde le sait. Les gens savent que lorsqu'ils sont détectés, ils savaient que lorsqu'ils étaient détectés pour la maladie du sommeil, rentrer dans un centre thérapeutique, c'était s'exposer à un risque de mourir à cause des médicaments. Aujourd'hui, l'ambiance a totalement changé. Il n'y a plus de décès liés à l'injection d'eflornithine et de prise orale de nifurtimox. Extrêmement important pour le traitement individuel, bien entendu, mais y compris extrêmement important pour la prise en charge santé publique, puisque les gens n'ont plus peur d'être dépistés. Ils savent que s'ils sont dépistés, ils vont être traités avec des médicaments qui est raisonnablement, qui est efficace et raisonnablement safe. Bon, on a fait ce même type de stratégie pour la leishmaniose viscérale, où là, on a aussi testé des associations thérapeutiques de sel d'antimoine SSG avec la paromomycine afin de réduire la durée de traitement. Ce n'est pas encore la panacée, on est beaucoup plus ambitieux que ça sur la leishmaniose, mais on se heurte à un parasite qui est extrêmement difficile à prendre en charge, encore plus difficile que le parasite de la maladie du sommeil. Donc on a amélioré la prise en charge, on a réduit la durée de traitement, on a une combinaison qui bien entendu qui est deux médicaments injectables, donc encore quelque chose de très difficile à en mettre en œuvre. Au niveau de l'Inde, alors parce qu'on est toujours sur la leishmaniose viscérale, on aurait pu penser que les progrès faits dans un continent puissent être utiles dans l'autre. Malheureusement, on a affaire à des parasites qui sont assez sophistiqués, puisque ce que l'on prouve en Inde ne peut malheureusement pas être mis en œuvre en Afrique. Donc en Inde, là, on a une situation beaucoup plus favorable, puisqu'on a pu tester plusieurs nouveaux traitements, et notamment à base d'ambisome, qui est une molécule extrêmement intéressante et qui, à dose unique, déjà produit une guérison. Donc on a testé la dose unique, on a testé la dose unique avec un médicament oral pour poursuivre, mais on est dans une phase de mise en œuvre d'une grande étude au nord de l'Inde pour documenter la meilleure manière d'utiliser ces produits. Enfin, petite avancée, mais importante tout de même pour les enfants, dans le domaine du Chagas. Le premier problème qu'on a pu résoudre, c'est de développer une forme pédiatrique du traitement classique qui était utilisé. Je vous ai dit au début que la plupart des malades de Chagas sont des jeunes enfants, et il n'y avait qu'un traitement pour l'adulte. Donc, dans les centres de santé d'Amérique latine, on devait découper les comprimés de benzinazole, un facteur de 4 ou parfois de 8, donc on ne savait absolument pas la dose que l'on donnait à l'enfant. Donc en fait, là, un petit progrès, petite avancée, on a développé une forme pour l'enfant qui aujourd'hui est mise à disposition des programmes par un partenaire industriel brésilien. Donc voilà une diapo peut-être un peu trop chargée, mais qui décrit 10 ans après une situation légèrement différente de celle que j'ai décrite au départ. Au départ, je décrivais que seuls 1% des nouveaux traitements développés pendant les 25 dernières années présentaient un intérêt pour ces pathologies-là. On a refait l'analyse pour la période 2000-2011. Il se trouve que 3,8% des nouveaux traitements touchaient intéresser ce domaine thérapeutique. Si on rajoute les vaccins, ça fait même 4,4%. Or, ce n'est pas encore assez, parce que la charge de morbidité reste supérieure à 10%. Mais enfin, il y a une amélioration. Et la deuxième chose qu'on a pu tester, c'est qu'il y avait des produits intéressants dans le portefeuille de recherche qui pouvaient nous permettre d'espérer quelques progrès dans la prochaine décennie. Enfin, pour terminer, je voudrais revenir à une question de contexte. Qu'est-ce qui sont les enjeux majeurs pour aborder cette problématique de recherche et développement, alors bien au-delà des maladies que j'ai évoquées. Je pense que ça touche aussi, d'ailleurs, le problème développé par Philippe, qui est le développement de nouveaux antibiotiques, les obstacles au développement de nouveaux produits. Pour moi, il y a 3 piliers qui sont des obstacles majeurs. Un est autour de la propriété intellectuelle et la manière dont cette propriété intellectuelle est managée et dans la manière dont on peut stimuler une innovation beaucoup plus ouverte et un échange beaucoup plus ouvert entre les différents partenaires, académiques au départ, industriels par la suite. Deuxième pilier, c'est autour des obstacles réglementaires qui sont aujourd'hui extrêmement compliqués, et extrêmement compliqués, notamment lorsqu'on veut envisager de prendre en charge des pathologies très sévères, des pathologies qui tuent, puisqu'on est dans une situation où on ne veut pas prendre de risques. Or, le risque zéro, lorsqu'on est dans la recherche, c'est un frein majeur au progrès thérapeutique. Pour le troisième aspect, et ça c'est particulièrement vrai pour les maladies qu'on essaie de prendre en charge, c'est qu'on a pu attirer quelques ressources dans ce domaine-là, mais il est extrêmement difficile d'avoir des ressources pérennes. Or, quand on est de la recherche et développement, il faut un engagement sur plusieurs années. Donc, ça, c'est un des grands problématiques. Donc, sur chacun de ces points, j'avais quelques diapositives, mais je pense que je peux aller un peu plus vite. Donc, sur l'accès et sur la notion de faciliter ce qui est appelé open source innovation, je pense qu'il y a plusieurs enjeux ici. Il y a d'abord améliorer l'accès à l'existant, l'accès aux composés chimiques qui ont été développés très largement. Et ça, je dois dire qu'on avait une inquiétude majeure lorsqu'on a lancé DNDi, on ne savait pas du tout si on allait avoir accès à ces librairies de molécules, et on a signé au cours de ces dernières années de nombreux accords assez favorables, donc avec des conditions qui sont tout à fait satisfaisantes pour pouvoir faire le travail de recherche et développement. Donc on a eu accès à des librairies de molécules. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut avoir, être capable de partager les progrès faits afin qu'on évite de répéter les mêmes efforts. Je pense que le système actuel est un système où les efforts de recherche sont faits dans différentes institutions et dans différents partenaires sans réellement se conjuguer. Donc là, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que si on avance dans le portefeuille de recherche, il est extrêmement important que l'on assure l'accès, c'est-à-dire que l'on ait l'accès comme facteur central dans toutes nos négociations avec les partenaires pour qu'à la fin, le produit soit rendu disponible à un prix raisonnable pour les populations. Et c'est facile à écrire sur une ligne d'une diapositive, c'est beaucoup moins facile à mettre en œuvre. Mais des initiatives qui sont décrites ont été prises ces dernières années pour essayer de faciliter ce type d'approche. Bon, au niveau des obstacles réglementaires, ils sont très nombreux. Puisqu'on est dans un domaine, et heureusement, je ne vais pas le critiquer, cela, on est dans un domaine extrêmement réglementé, puisqu'on touche à la sécurité des populations. Donc, on a vu émerger toutes les autorités réglementaires. Alors, au niveau européen, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a les autorités réglementaires nationales, on a au-dessus l'autorité européenne, on a la FDA américaine. Bon, c'est vraiment les piliers, on va dire, du réglementaire, qui donne le ton, d'ailleurs, pour l'ensemble du monde. Il faut savoir que les autorités réglementaires, dans beaucoup de pays en développement, n'ont pas du tout le même niveau de compétences. Donc là, il y a une dichotomie majeure. Or, c'est elles qui sont en mesure de mesurer, de faire l'analyse risque-bénéfice pour les populations. Parce qu'une grande partie de la problématique réglementaire consiste à évaluer les risques par rapport aux bénéfices pour la population. Et quand on était dans le fameux scénario de l'arsenic injecté pour la maladie du sommeil, bien entendu, on était à même de prendre plus de risques pour rechercher les nouveaux traitements. Donc ça, aujourd'hui, c'est un obstacle majeur puisque, on va dire, les compétences réglementaires sont situées en dehors des zones de problème. Et il est très difficile de demander à la FDA américaine d'évaluer les risques pour la maladie du sommeil. Donc là, on travaille beaucoup dans ce domaine-là, avec beaucoup d'autres partenaires, on n'est pas du tout isolé là-dessus, pour essayer de renforcer les capacités dans les pays en développement, créer des complémentarités nord-sud. Le IMIE, donc l'Agence européenne, au niveau de Bruxelles, a voté un article 58 qui est particulièrement intéressant, puisqu'elle elle donne la possibilité aux autorités réglementaires européennes de donner un avis scientifique pour un produit, donc un traitement, un vaccin, qui serait développé pour les pays du tiers-monde. Donc elle met à disposition son savoir-faire pour permettre d'avancer sur ces dossiers. Donc là, deuxième domaine très complexe que je ne peux pas couvrir en quelques minutes. Bon, le troisième domaine, c'est les fonds. Donc là, avec le besoin d'avoir des fonds sécurisés et surtout pérennes. Donc là, je vais juste prendre l'exemple d'un débat qui a lieu actuellement dans la société française, puisqu'on parle de la FTT, la taxe sur les transactions financières, qui a été votée par l'Assemblée. et dont les revenus vont devoir être affectés à différentes causes. Il est déjà acquis qu'une partie de ces revenus iront vers les problèmes de développement et notamment les problèmes de santé. Donc là, nous essayons de faire en sorte qu'une proportion des fonds affectés à la santé soit orientée vers la recherche et le développement. Puisque là, on aurait une source pérenne, hein, puisque je pense que si cette taxe est mise en place, elle durerait. Donc là, c'est un des exemples de mode de financement pérenne que l'on essaie de promouvoir. Voilà, donc le dernier enjeu, c'est que j'ai commencé à décrire ce puzzle de nouveaux acteurs qui sont apparus dans ce domaine-là. Je pense qu'un des éléments qui manque, c'est vraiment une coordination plus grande, un leadership plus grand. Ce sujet est actuellement discuté au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé, au niveau de l'OMS, avec une très forte réticence des différents États membres de mettre une partie de leur autorité au centre. Et je pense que c'est extrêmement dommage pour faire avancer ce type de projet, parce que bon, ça s'applique complètement à ce que j'ai décrit, mais alors ça s'applique complètement à la présentation précédente. Si on veut aborder, en termes de recherche et développement, un problème comme la multirésistance aux antibiotiques, il faut qu'il y ait une coordination internationale. Et seule aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est dans une position de promouvoir cette coordination. Je ne pense pas qu'elle puisse venir d'un État qui impose au reste du monde. Donc voilà, donc c'est un enjeu que je voudrais. C'est sur cet enjeu que je voudrais terminer ma présentation. Et bien entendu, je n'ai pas du tout parlé de comment on était financé, mais je termine par une diapositive qui remercie les différents contributeurs. DNDI reçoit aujourd'hui la moitié de ses fonds de gouvernement, c'est le gouvernement, l'autre moitié de quelques entités privées, dont Médecins Sans Frontières, la Fondation Gates, Wellcome Trust et d'autres. Merci beaucoup.